Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. C'est l'histoire d'un concert, ou plutôt d'un concerto, que le narrateur s'est mis en tête de jouer en public pour ses amis. Le moment venu, la gorge se noue, les doigts se crispent, le dos se tend, sueurs et angoisses, il faut bien commencer. Le pianiste amateur se lance dans la musique de Bach comme dans une course de fond. Il doit tenir les trois mouvements, soutenus par les cordes. Les notes se succèdent et les souvenirs affluent. Ils évoquent d'autres interprétations, ils convoquent aussi les absents dans un récit introspectif au tempo saisissant. Cette histoire, c'est celle que nous raconte Sébastien Balibard, car ce physicien, membre de l'Académie des sciences, est aussi musicien. Bonjour.
Bonjour.
Alors Sébastien Balibard, vous venez de publier « L'enfant et le concerto » aux éditions Odile Jacob, et vous avez choisi comme trame de ce récit une pièce de Bach. Pourquoi Bach ?
Ah ben, Bach a une position absolument merveilleuse et très reconnue dans toute la musique et pour tout le monde. Maintenant, ce livre, effectivement, c'est deux histoires qui se croisent avant de se réunir. Il y en a une qui est l'histoire d'un musicien amateur qui veut jouer un concerto que je crois être une œuvre fondamentale dans toute l'histoire, en tout cas dans les trois derniers siècles de la musique, hein, qui est le concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Bon. Et puis d'autre part, il y a une histoire d'un petit garçon qui essaye de jouer de la musique, et donc on va en parler. Bon. Donc ces deux histoires qui se réunissent, et là-dessous, il y a évidemment la personnalité, ou la personne tout simplement, qui va devenir un musicien amateur, et qui a été un enfant qui a eu des bonheurs et des malheurs. Alors tout ça, ça fait un livre un peu compliqué, mais moi j'aime mieux les livres un peu compliqués que les livres trop simples.
Bon. Alors ces deux récits s'entrecroisent au rythme du concerto, nous suivons vraiment ces trois mouvements. Vous nous avez dit que le concerto en ré mineur pour piano de Bach occupe une place fondamentale dans l'histoire de la musique. Et vous, dans votre histoire, qu'est-ce qui vous touche dans ce concerto ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ?
C'est ce que je raconte pendant le livre. Hein. Je vais vous lire peut-être le début, si vous voulez. Je peux... Donc, le concerto, c'est un vrai concerto, qui commence donc, comme souvent, par un allegro. Évidemment, je ne me sens pas franchement allègre, plutôt tétanisé. Mes doigts sont toujours raides, je le sens, et mes poignets sont lourds, comme mes épaules, comme mon dos qui recommence déjà à me faire souffrir, même mes poumons de cycliste sont bloqués, je suis déjà essoufflé. Enfin, peu importe, il faut y aller, maintenant je n'ai pas le choix. J'inspire à fond, je souffle, je me calme, je fais le vide dans ma tête. Les lumières se sont éteintes et je ne vois plus personne dans la salle. Je ne vois que vous quatre à mes côtés, vos instruments en main déjà concentrés et souriants. Vous m'aidez beaucoup, vous vous en rendez compte ? Le silence s'est fait dans la salle. Il me reste quelques secondes à peine. Nous nous sommes à peine regardés, nos respirations se sont synchronisées, j'ai senti que c'était le moment, et tous les cinq, d'un seul élan, nous avons lancé le tutti initial. J'ai toujours trouvé ce premier mouvement dramatique. Il commence par un unisson théâtral, avec du rythme, des contretemps, des sauts. Il faut donc y aller franchement. J'avais proposé le tempo de Glenn Gould, celui de son concert de 1957. C'était à Leningrad, un de ses premiers concerts à l'étranger. Pour je ne sais quelle raison, ce jour-là, Gould était parti un peu plus lentement que d'habitude. L'influence de Ladislav Slovak au pupitre de l'orchestre symphonique du conservatoire de Leningrad, ou simplement son désir à lui de bien contrôler la situation, celui qui n'aimait pas non plus jouer en public. Pour qui jouait-il à propos? Pour lui-même, sans doute. Attention, ce n'est pas le moment de penser, même à Gould. Dès la troisième mesure, j'ai une douzième à sauter. Et puis ça continue, il se passe beaucoup de choses, parce que cet amateur, il joue un concerto que je considère comme le premier grand concerto d'un style qui est de faire des concertos en général, mais pas toujours. Il y a un instrument solo, quoi, par exemple un piano, mais ça peut être évidemment un violon ou un violoncelle ou je ne sais pas quoi, beaucoup d'autres instruments. Et donc ça s'est développé pendant 3 siècles, mais ça c'est le premier. Et à mon avis, c'est à partir de là que cette manière de présenter de la musique, quoi, disons, est née et s'est développée, en tout cas dans toute l'Europe, pour faire des quantités de concertos extraordinaires que nous aimons, enfin moi beaucoup.
C'est donc fondateur, et dans le morceau que vous venez de lire, nous entendons que ce pianiste amateur joue soutenu par un quatuor de cordes, et c'est vraiment un travail en commun.
Oui, c'est très intéressant votre question. Combien sont-ils? À mon avis, les rapports entre les membres d'un quintet, donc un piano, mettons, et 4 instruments à cordes, 2 violons, un alto et un violoncelle, les rapports sont pas les mêmes que dans un trio où il y a seulement, mettons, un piano, un violon et un violoncelle. Pourquoi? Parce que, en fait, dans un quintet comme ça, tous les instruments à cordes forment ensemble un seul instrument. D'ailleurs, je raconte ça à un endroit parce que c'est une question qui m'intéresse. Il y a combien de voix? Ils chantent, de la musique bien sûr, mais ils sont combien? Alors, à mon avis, les 4 instruments à cordes sont tous ensemble, ils font un seul instrument. Maintenant, attention, le pianiste, il a 2 mains. Et parfois, il y a la main droite et la main gauche qui se parlent, qui se répondent, etc. Et donc, en fait, à mon avis, dans un quintet comme ça, il y a 3 personnages, si on peut dire, 3 musiciens qui s'échangent des idées qui sont en fait de la musique. Bon. Alors, dans un trio, au contraire, ils sont 3. Le violon et le violoncelle ne jouent pas la même chose. Voyez. Et donc, c'est une manière de se parler par l'intermédiaire des notes de musique, que je trouve très intéressante.
Vous dites d'ailleurs que le pianiste doit se dédoubler, que c'est très courant dans la musique de Bach.
Oui, alors, il se trouve que donc moi-même, je ressemble pas mal au personnage de ce livre, hein, mais c'est pas exactement moi, hein, donc ils ont, pour ça qu'il s'appelle pas Sébastien, par exemple.
Bon. Mais Pierre.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que on pourrait croire que le pianiste, il a 2 mains, donc il est capable de faire chanter 2 voix différentes, la voix de la main gauche et la voix de la main droite. Oh là là, Jean-Sébastien Bach, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et d'ailleurs, il se trouve que, je n'ai rien à cacher, mais en ce moment, je travaille comme je peux l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Donc, c'est 24 fugues, je crois. Donc, la dernière, il n'a pas réussi, il est mort avant de finir la dernière fugue. Mais ces fugues, elles ont souvent, par exemple, la première, elle a 4 voix. Et donc, on n'a que 2 mains, mais heureusement, on a 10 doigts. Et avec tout ça, il faut faire 4 personnages, c'est-à-dire 4 voix musicales, qui se parlent, qui se croisent, qui partent, qui reviennent, etc. Donc, c'est très compliqué et c'est très délicat de faire sortir 4 voix avec 2 mains. Vous voyez ce que j'essaye de dire?
Bon, si,
c'est d'autant
fait.
Plus intéressant, d'ailleurs, moi, je trouve. Oui, oui.
Et c'est cela qui angoisse ce pianiste qui se retrouve sur la scène devant un public, alors qu'il n'en a pas l'habitude.
Oui, peut-être, mais c'est pas comme ça que je dirais les choses. Quand on est amateur et que évidemment on n'a pas un talent universel, on est fragile. Bon, maintenant la raison pour laquelle on a le trac, comme on dit vulgairement, quand on joue devant même ne serait-ce que 5 amis, mais là c'est une petite salle de 200 personnes dans mon livre. Bon, eh bien on a peur. De ne pas réussir ce qu'on voudrait, quoi. De ne pas faire chanter la mélodie comme il le faut, de montrer qu'on est un amateur. Hein. Bon. Mais en même temps, on a envie de faire plaisir à soi-même et à ses amis en jouant pour eux. Bon, c'est très difficile de surmonter ça. En fait, même les grands pianistes ou les grands musiciens, ils ont beau avoir un talent extraordinaire, ils ont une certaine tension quand ils jouent en public. Hein, faut pas non plus se faire des illusions. Quoique, ça me fait penser que, et dans mon livre et dans la réalité, le musicien se détend progressivement. Pourquoi ? Il faut se mettre dans l'imagination du musicien, mais en fait, au bout d'un certain temps, on se détend. Et d'ailleurs, dans mon livre, quand on passe au deuxième mouvement, qui est très intéressant, qui est une sorte de marche funèbre, hein. Non, justement, pardon.
Avec un point d'interrogation.
Oui, avec un point d'interrogation. Non, et justement, je viens de me tromper, ce deuxième mouvement, il est lent, mais c'est plutôt une cérémonie funéraire, hein, qu'une marche funèbre, comme c'est le cas du deuxième mouvement. Dans le quintet de Schumann, pour les mêmes pianos plus instruments à cordes, quoi, ce n'est pas une cérémonie, mais plutôt une marche. Et j'ai mis longtemps à comprendre ça, mais c'est très important, parce qu'il faut choisir un tempo, un rythme. Hein. Et selon qu'on marche, ou qu'on on se recueille, eh bien, évidemment, le tempo n'est pas le même. Et je raconte ça à un endroit du livre, parce que c'est très important.
Oui. Il y a donc un travail plus sur la continuité, sur les liaisons, dans une cérémonie,
oui,
dans l'esprit d'une cérémonie funèbre.
Absolument, absolument. Mais vous avez tout à fait raison. En travaillant ce concerto et en préparant le concert, quoi, je me suis posé la question à quel rythme on joue, quoi, bien sûr. Et c'est là que je me suis aperçu que même l'écriture n'est pas la même, parce que dans le quintet de Schumann, hein, c'est comme une marche, on fait 1, 2, 1, 2, comme ça, et donc, en fait, il y a un petit soupir, on respire entre les notes, quoi, dans un rythme comme quand on marche, 1, 2, 1, 2, quoique on ne marche pas, heureusement, comme des militaires au pas cadencé. Eh bien, le quintet de Schumann, il est comme ça, en deux temps, avec des soupirs. On respire quand on marche, quoi. Il y a une petite interruption. Alors que dans le concerto de Bach, donc j'ai joué moi-même, évidemment, bon, mais que je raconte, non, on est très calme autour d'un imaginaire, quoi. Et là, c'est plus lent, et il n'y a pas de coupure. Hein. Et donc, quand on joue, moi au moins, je suppose que les grands musiciens, j'ai par exemple énormément d'admiration pour Madame Maria Joan Pires. Attention à la manière dont je prononce ça, parce que c'est elle qui m'a expliqué comment fallait dire son nom. Je peux vous raconter ça si ça vous amuse.
Ben volontiers, parce qu'elle revient souvent dans votre livre.
Oui. Alors, Maria Joan Pires, oh oui, c'est une pianiste que j'aime infiniment et pour qui j'ai énormément de respect. En particulier parce que ce qu'elle joue est toujours très, très, très délicat et très expressif, hein, ce qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de musiciens professionnels qui sont en public, alors ils font du spectacle. Non, elle est expressive. Et donc un jour, j'avais eu la chance d'être invité à un concert privé. J'ai vraiment de la chance. Bon, et donc, elle avait joué la dernière sonate de Schubert, qui est une merveille extraordinaire. Les sonates de la fin de vie des grands musiciens sont souvent extraordinaires. Hein. On s'améliore souvent en vieillissant, ce n'est pas mon cas. Bon. Toujours est-il que c'était extraordinaire. Elle avait demandé aux gens, quand elle aurait fini, de ne pas applaudir, parce qu'elle voulait qu'on reste dans l'émotion de 20 minutes de Schubert extraordinaire. Alors les gens étaient incapables, ils ont applaudi quand même, bon, tant pis. Bon. Mais enfin, du coup, je suis allé la voir pour lui dire c'est dommage qu'ils aient applaudi, quoi. Et donc, dans mon livre, j'ai raconté qu'il ne fallait pas applaudir toujours, hein, et ils avaient applaudi, et dans mon concert, enfin bref, les gens applaudissent aussi, ils ne peuvent pas s'empêcher, ils sont restés 5 minutes sans bouger, il faut absolument qu'ils gigotent, moi ça m'agace.
Alors, dans les pensées de votre personnage, du pianiste, de nombreux interprètes reviennent au fur et à mesure qu'il joue. Oui. Il y en a un autre dont vous parlez beaucoup.
Oui, c'est Glenn Gould, vous voulez dire ?
Exactement.
Oui, alors Glenn Gould, c'est un pianiste extraordinaire, comme il n'y en a personne d'autre. Et l'une des choses qui m'intéresse le plus dans ses disques, parce que je ne l'ai jamais vu en vrai, c'est ces deux enregistrements des variations Goldberg. Alors les variations Goldberg, c'est très très célèbre évidemment en musique. Et donc il a fait un premier enregistrement quand il était très jeune, où il jouait assez vite. Bon. Et puis un deuxième enregistrement, qui était son dernier enregistrement, un an avant de mourir, il était complètement malade à la fois du cerveau et du reste. Et donc le deuxième enregistrement était beaucoup plus lent. Et c'est une merveille splendide. On peut être très, très expressif en étant très lent. Ce que beaucoup de pianistes ne font pas, parce qu'ils s'imaginent qu'il faut avoir l'air d'être très habile, enfin bon, pour avoir du public. Non, parfois, en étant discret, on est encore beaucoup plus émouvant. Et je raconte un peu ça, en particulier parce que pour jouer le deuxième mouvement de ce concerto, il parle à la première personne, donc il me ressemble terriblement. Donc disons-je, j'ai beaucoup hésité sur le tempo à adopter, donc à aller plus ou moins vite. Et donc je pense à Glenn Gould qui a fait une merveille en allant lentement.
Et en même temps, ce personnage qui vous ressemble doit trouver sa propre voie d'interprétation. Il ne doit pas chercher à faire du Glenn Gould, par exemple.
Oui, alors il y a une... Vous me donnez envie de raconter plein de choses. J'ai été élevé d'une manière... élevé au piano, quoi. D'une manière catastrophique. Et c'est l'occasion pour moi d'analyser mes relations avec mon père, qui était un pianiste bien meilleur que moi. Bon. Grâce à mon métier de chercheur, en fait, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques qui sont des musiciens amateurs. Donc, on a beaucoup réfléchi à la manière de jouer, quoi, qui était le contraire de ce que j'avais subi quand j'étais petit, où il y avait un métronome qui faisait tac-tac-tac et un professeur stupide qui mettait ses mains sur les miennes et qui m'empêchait de jouer, en fait, etc. Bon. Alors que par la suite, j'ai eu envie de réfléchir à ce que j'étais en train d'exprimer, en particulier à propos de quelque chose qui est très intéressant et très émouvant, qui s'appelle la cadence. Donc dans les concertos, j'allais dire modernes, oui, parce qu'il y a des concertos de Vivaldi, par exemple, un peu avant Jean-Sébastien Bach, mais par la suite, il y a toujours un moment vers la fin d'un mouvement qui s'appelle une cadence, où on arrive sur une note comme si on avait envie de réfléchir, de respirer plutôt, avant de continuer et de terminer le mouvement. Et ça, c'est très important. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça avec mes amis musiciens, dont encore une fois, beaucoup d'entre eux sont des scientifiques. Et ça, c'était vraiment le contraire absolu de ce que j'avais subi dans ma petite enfance, avec des professeurs stupides, avant d'entrer au conservatoire, où là, c'était vraiment bien, quoi.
Nous arrivons justement à la deuxième trame de votre récit, qui s'entrecroise avec le concert. C'est celle de ce petit garçon qui s'appelle Pierre, et qui va découvrir le piano. Il y a deux méthodes de piano. La première, justement, au métronome, avec cette mademoiselle P, qui porte du pilou rose. Oui. C'est une catastrophe. Oui. Et puis la révélation au conservatoire avec Madame M.
Mais effectivement, c'est assez difficile à comprendre que ce père, qui jouait quand même admirablement, et c'est ça qui a provoqué mon désir, enfin je parle à la première personne parce que après tout c'est plus simple, de jouer de la musique, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que mon père, qui était un mathématicien et qui jouait quand même des choses extrêmement difficiles, et souvent il jouait ça admirablement, condition de se détendre un peu, comment se fait-il qu'il ne m'a pas mis tout petit avec un bon professeur, et si possible, aussi vite que possible aussi, au conservatoire? Ben, c'est très mystérieux. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai fini par comprendre un peu, mais pas complètement, que mes rapports musicaux avec mon père étaient très contradictoires eux-mêmes. Il y avait de l'excellent et du lamentable et regrettable. Et ça se termine bien parce que je finis par arriver à jouer de manière suffisante pour pouvoir faire des quatre mains ensemble, par exemple, avec mon père, pour avoir du plaisir à deux.
Parce qu'au début, il y a beaucoup de larmes, de scènes où le petit garçon n'arrive pas à tenir l'exigence de son père.
Effectivement, effectivement. Et ça, c'est très étrange pour quelqu'un qui aimait tellement la musique de n'avoir pas fait attention à ce que son fils hérite de tout ce immense plaisir. Alors ça, c'est l'un des sujets de ce livre, qui en a encore d'autres d'ailleurs. Mais j'ai pas voulu raconter une histoire ABC qui n'a pas de surprise, quoi. Donc je vous encourage vivement à lire. Vous aimerez peut-être ce petit livre, hein. Il est sentimental et complexe.
Bon. Et sans tout dévoiler, il y a des exercices de quatre mains,
oui,
qui sont très importants et où l'accord vient vraiment avec le temps.
Peut-être, oui. Il faut apprendre à intégrer le rythme. Mais je crois qu'il faut surtout apprendre à écouter l'autre. Et pas forcément jouer à un rythme qui est rigide, quoi, disons. Non, d'ailleurs, les grands musiciens, ils ralentissent, par exemple pour la fameuse cadence dont je parlais un peu tout à l'heure, avant de reprendre exactement le tempo qu'ils avaient avant, parce qu'ils s'en souviennent, ils ont appris à s'en souvenir. Tout ça, c'est des choses que j'ai apprises, moi, en étant beaucoup plus âgé, quoi. Bon. Et c'est délicieux, d'ailleurs, d'avoir un moment de respiration au moment de la cadence, et ensuite, juste le temps de respirer, et encore. Parce que si on s'arrête trop longtemps, alors on a oublié ce qu'il y avait avant, donc ça ne va pas non plus. Bon. Et de reprendre le thème du début pour terminer le mouvement. Ça, c'est des choses qui sont typiques de la manière dont l'art du concerto s'est développé après Jean-Sébastien Bach. Et je parle aussi il y a un autre ré mineur qui est de Mozart, lui. Et c'est déjà assez différent, en particulier pour la cadence. Les cadences de Mozart sont déjà devenues, c'est juste quoi, 50 ans après, et encore, je ne suis pas sûr, c'est devenu un exercice de virtuosité. Et c'est de plus en plus spectaculaire, hein, au fur et à mesure que cette tradition du concerto se développe. Et puis aujourd'hui, on fait des choses qui sont très très compliquées.
Vous dites que ce livre est écrit à la première personne,
oui,
et nous sommes tout le temps dans les pensées, dans les souvenirs, dans les angoisses, dans les victoires,
oui,
du narrateur.
Oui.
Et de temps en temps, il y a un « tu », sous,
oui,
forme souvent de questions d'ailleurs. « Et toi, où es-tu ?»
Oui.
Il y a plusieurs « tu » d'ailleurs, on s'en rend compte.
Oui.
Qui sont ces absents qui ne sont pas, oui, toujours nommés?
J'ai envie de vous en renvoyer la question. Est-ce que vous avez deviné qui c'est?
Alors, je pense qu'il y a le père, justement.
Oui, oui, c'est clair, oui.
La mère.
Oui, absolument.
Et puis une femme.
Ben, que j'aimais, visiblement.
Aussi.
Ben, il y en a quelques autres encore en plus. Mais j'ai eu cette idée, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je crois que ça... Enfin, j'ai eu des réactions qui étaient plutôt positives. Le pianiste qui joue... Il ne peut pas s'empêcher de penser à autre chose. Il ferait mieux de se concentrer sur ses notes, mais il ne peut pas s'empêcher de penser en particulier aux absents. Et les absents, il y en a de plusieurs sortes. Il ne dit pas leur nom parce que je trouve que ça n'aurait pas été une réussite. Donc vous avez deviné deux des personnes, mais il y en a d'autres.
Et les absents sont présents?
Eh bien, ça dépend. Il y en a qui sont là et d'autres qui ne sont pas là.
Et sur votre conception de la musique, il y a aussi des idées presque philosophiques qui viennent à l'esprit du pianiste. Par,
oui,
exemple, cette idée que la musique, c'est comme une peinture, qu'on,
oui,
construit des plans, des,
oui,
arrière-plans, qu'il y a,
oui,
des couleurs comme un tableau de Poussin. Vous,
oui,
le dites à un moment,
oui,
donné.
Oui, je le dis, oui, oui.
C'est une image qui vous tient à cœur?
Oui, Parce que, en jouant de la musique de chambre pendant très longtemps, j'ai beaucoup attribué d'importance à l'expression, quoi. Et alors, ça, c'est tout le contraire de prendre un métronome qui fait tac-tac et de rester dans le rythme du métronome sans rien faire d'autre. Hein. On pense à beaucoup de gens et on essaye d'être expressif. Tout ça est subtil. Et puis, quand on est 5 ou 3, comme, il faut se mettre d'accord, quoi, sur la manière de faire. Et en fait, on se rend compte que dans le concerto en ré mineur de Bach, il y a beaucoup de phrases qui sont expressives. Et Bach, il n'écrivait rien en marge des notes. C'était au musicien d'inventer ce qu'il avait envie de faire. Alors, c'est subtil, ça. Hein. Il faut essayer de comprendre ce que M. Jean-Sébastien Bach, ou son fils, d'ailleurs. Bach, il avait 20 enfants. Il y en a 10 qui sont morts, en bas âge, mais presque tous. Bon. Et puis, dans les garçons, il y en avait 5 ou 6. Et donc, il y avait son fils aîné, qu'il avait l'air d'aimer particulièrement. Mais celui avec lequel il a écrit ce concerto dont je parle depuis tout à l'heure, c'est le cadet, le troisième en fait. Hein. Et c'est avec son troisième fils donc qu'il a fait la dernière version de ce concerto qu'il avait d'abord écrit pour violon, puis ensuite intégré dans des cantates. Et donc tout ça, la fabrication du concerto, c'est très intéressant. Et de penser qu'il a écrit ça avec son fils, numéro 3, moi je trouve ça très émouvant, peut-être sans doute même, parce que je suis moi-même, je suis quatrième, moi je suis le petit. Bon. Mais c'est moi qui ai fait du piano avec mon père, donc il y a des points communs. Et puis je m'appelle Sébastien, comme Jean-Sébastien Bach, quoi, je peux pas faire comme si c'était pas vrai.
Et dans la musique de Bach, ce qui semble vous parler, c'est une forme de pureté, de minimalisme. Est-ce que le mot est juste ?
C'est une musique très riche, hein. Mais effectivement, c'est pas une musique qui veut faire du spectacle, quoi. C'est pas ça du tout. Et ce qui est extraordinaire, ça se sent très bien, par exemple, dans l'art de la fugue dont je parlais tout à l'heure, hein, et de la première fugue qui a 4 voix. C'est discret, mais c'est complexe, et quand on joue ça, enfin moi j'ai beaucoup de plaisir à penser au dialogue, enfin ils sont 4, pas 2, hein. C'est extraordinairement intéressant. Et si on ne faisait du piano ou d'un instrument de musique que pour rester dans la mesure et arriver à temps au bout des 250 mesures, oh là là, ce serait catastrophique. Non, moi je cherche l'expression. Alors j'y arrive peut-être pas d'ailleurs, mais enfin j'essaye.
Et le piano justement, qui est votre instrument de prédilection,
oui.
Un certain passage, vous parliez de la flûte.
Oui.
Pourquoi cet amour du piano ? Est-ce que ce sont les voix intérieures,
oui,
dont vous parlez souvent qui résonnent dans cet instrument ?
Oui, oui, il y en a beaucoup de plaisir à penser pendant qu'on joue, enfin il me semble, et en particulier, je parle du moment où, de la cadence où on peut s'arrêter et puis en fait on continue. Il faut penser, ouais, il faut pas s'arrêter, il faut pas se faire uniquement des notes, quoi.
Justement, je crois que vous aviez un autre passage à nous lire.
Ah oui.
Sur le petit garçon.
Ah oui, pourquoi pas, oui. Et donc le petit garçon, il explique qu'il est dans une chambre qui est un peu plus loin de sa maman que les autres, et puis bon, mais enfin il est en face d'une sorte de grande pièce où son père a son piano à queue, quoi. Et c'est le moment où il va commencer. Pierre, lui, avait donc un petit lit en bas, près de l'entrée, dans ce qui avait dû être le bureau du député, parce qu'ils avaient loué, mes parents avaient loué la maison, en fait, assez grande, à un ancien député. Bon. C'était loin de sa mère, un peu exigu aussi, et même assez sombre. Le soleil n'y descendait pas. Pierre était-il un enfant regretté ? Non, c'est pas possible, pas possible, absolument pas possible, non, pas regretté. Et pourtant, quand Pierre pleurait, sa mère ne l'entendait pas. Alors il ne pleurait pas, puisque ça ne servait à rien. D'ailleurs, il n'était pas malheureux, pas du tout. En fait, il ne s'ennuyait jamais, jamais. Et quelqu'un l'aidait à cela. Près de sa chambre, Pierre avait un compagnon, un voisin qui l'écoutait tous les jours. Un grand voisin noir avec une belle voix de basse, mais aussi de jolis aigus. En effet, dans la pièce de séjour, en face de la chambre de Pierre, son père avait mis un grand piano noir. Pas un meuble en bois ordinaire où l'on aurait installé quelques photos de famille sous verre, ou pire, un vase de fleurs qui aurait pu, en se renversant, inonder la table d'harmonie. C'était un Steinway de 1913, un quart de queue long d'un mètre 80, un modèle A, comme disait l'accordeur. Et donc, son enfance se passe à côté du grand Steinway de son père, hein, et ça déclenche tout. Mais c'est compliqué. Si ce n'était pas compliqué, ce ne serait pas intéressant.
Qu'est-ce qu'il est devenu, ce piano ?
Eh bien, je le dis à la dernière page. Donc, je ne sais pas si je vous le dis.
Gardons le mystère, en tout cas, puisque nous parlons de dernière page, le dernier mot. C'est le mot « silence ».
Oui.
Et le silence revient régulièrement dans ce récit. Nous comprenons que vous voulez construire le silence, que le silence s'écoute, que peut-être toutes ces mesures sont là pour nous faire goûter le silence, donner de la couleur au silence. Qu'est-ce que c'est un silence ?
J'hésite à vous dire ce que c'est, parce que effectivement, ce mot « silence », et je l'ai choisi avec beaucoup de précaution. Et ce n'est pas tout à fait ce que vous dites. Hein. Mais je ne veux pas... Non, je veux pas vous dire la fin du livre. Hein, parce que il y a une fin. Il y a aussi certaines fins de certains chapitres. Hein. Et, non, mais je préfère que les gens le lisent. Hein, parce que c'est pas une surprise. C'est... Bon, ça peut être émouvant pour certaines personnes.
Eh bien, nous allons donc suivre votre invitation, Sébastien Balibar. Merci d'être venu nous parler de musique. Je rappelle donc le titre de votre livre, « L'enfant et le concerto ». C'est publié aux éditions Odile Jacob. Ça fait à peu près 150 pages. Voilà, ça se lit de façon très agréable, avec des rythmes différents selon les chapitres. Un grand merci de votre venue.
Merci.
Et à bientôt.
Merci à vous, c'est très gentil. Merci. Thank you.